Il fallait avoir pitié de votre frère comme moi-même j'ai eu pitié. Chers frères, parmi les fautes dans lesquelles les hommes tombent le plus souvent, il faut mettre en première ligne la haine, la colère, la vengeance, le refus de pardonner. À quelles occasions ces sentiments se produisent-ils? Principalement lorsque nos désirs butent contre un obstacle qui se trouve dans la volonté ou la malice du prochain. Or, les passions humaines, et par conséquent, les obstacles qui contrarient nos désirs, sont en grand nombre. Aussi, les causes qui peuvent enflammer en nous l'impatience, la haine et la colère sont fort nombreuses. Attachons-nous dans un premier temps à considérer les fruits amers de ces mauvais sentiments. Tout d'abord, si ce péché était aussi léger qu'il est fréquent, il y aurait moins d'inconvénients à le commettre. Mais il n'en est pas ainsi. Bien au contraire, la colère, dit saint Augustin, si elle arrive jusqu'à la haine, transforme en poutre ce qui n'était qu'une paille et rend ainsi l'âme homicide. C'est ce que nous lisons dans saint Jean, « Tout homme qui hait son frère est homicide ». Que de péchés également et que de maux découlent comme de leur source de la haine et de l'esprit de vengeance. Que de mauvaises passions naissent dans le cœur agitées par de tels sentiments. C'est l'envie, les jugements téméraires, les sinistres projets, les querelles, l'amertume, l'injure, et cela peut aller encore plus loin, beaucoup plus loin parfois. Saint Jean, à juste titre, fait cette remarque. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et parce que les ténèbres l'ont aveuglé, il ne sait où il va. Et de la même manière qu'un homme privé de la vue se heurterait à tout obstacle et tomberait au fin fond d'un précipice sans même s'en rendre compte, l'homme aveuglé par la colère et la haine se jette de lui-même au fin fond d'un gouffre de péché. Et malheureusement, le plus souvent, il n'y tombera pas seul. L'homme est un animal social, il a des parents, des amis. C'est tout l'ensemble de ces relations que l'homme, pris par la haine et l'esprit de vengeance, va chercher à attirer dans les mêmes sentiments que lui. Que l'on pense à ces haines sur plusieurs générations entre deux familles, deux cités, deux nations, dont l'histoire est pleine. De plus, quand le venin de la haine a pénétré au fin fond du cœur, c'est toute la tranquillité et la paix de l'âme qui s'en vont, bien le plus cher pour notre corps. Car rien n'est plus pénible, ni ne trouble davantage notre esprit, que la fureur et la rage, sentiment que la haine met au plus profond du cœur. Et non seulement ce vice conduit l'âme à sa perte, mais il est dès ici-bas un bourreau qui la torture et la tourmente sans cesse. Et le malheur est encore plus grand pour celui qui arrive à assouvir sa vengeance. Car alors, comme Caïn, après avoir tué son frère Abel, le regard de Dieu est sans cesse sur lui. Et c'est le remords de la conscience qui, comme un glaive effilé, est sans cesse enfoncé dans sa conscience. Voilà pour les fruits amers de la vengeance. Mais certains diront, comment ne pas me faire justice contre celui qui a ravi ma réputation, qui a détruit mon honneur, qui a causé du tort dans mes biens? Est-il seulement possible que je le regarde calmement, sans colère? Et vous me demandez de lui parler avec amabilité, comme s'il était mon ami? Il y a bien sûr ici grande difficulté. Quels sont donc les motifs qui nous aideront à agir de la sorte? L'Évangile aujourd'hui nous donne un des motifs les plus profonds, la conscience de nos péchés. Notre Seigneur met dans la parabole de l'Évangile deux serviteurs qui ont chacun une dette à rendre. l'un au roi, l'autre au premier serviteur. La dette du premier serviteur s'élève à 10 000 talents. Un talent, à l'époque de notre Seigneur, correspond à peu près à 4 500 deniers. 10 000 talents, c'est donc 45 millions de deniers. Pour un ordre d'idée, la paye d'un ouvrier par jour était de 1 denier. Donc entre ces 45 millions de deniers et ces 100 deniers, c'est deux ordres de grandeur totalement différents, disproportionnés. Cette première somme de 10 000 talents est exorbitante. Elle correspond à la dette que nous devons envers Dieu à cause de nos péchés et à la dette que notre prochain doit envers nous s'il nous a offensés. En effet, quelqu'un qui nous offense ne fait qu'offenser un être fini, limité, une pauvre créature pécheresse. Mais quand nous offensons Dieu, nous offensons un être infini, digne de toute louange, de toute majesté. C'est le Dieu trois fois saint. Et même quand on pense au pire des péchés des hommes, à ces assassinats scandaleux, à ces meurtres, bien sûr, il y a un grave péché, mais c'est avant tout une offense contre Dieu. C'est surtout Dieu qui est offensé. Aussi, lorsque nous sommes pris par de mauvaises passions, que nous ressassons dans notre esprit le mal qu'on a pu faire contre nous, pensons davantage au péché que nous avons commis contre Dieu, à cette dette que nous avons envers la justice divine. Et notre Seigneur nous dit bien, c'est dans la mesure où nous aurons pardonné à nos frères que nous serons nous-mêmes pardonnés. Rappelons-nous de cet autre passage de l'Évangile où cette femme, prise en plein péché d'adultère, est amenée à notre Seigneur. Notre Seigneur ne l'a pas condamnée, alors que la populace haineuse était prête à la lapider. Notre Seigneur leur a dit « Que celui qui est sans péché jette la première pierre. » Et ils sont tous partis les uns après les autres, et l'Évangile précise « en commençant par les plus âgés, par ceux qui avaient commis le plus de péchés. » Ainsi, souvent, penser à notre profonde misère, à notre condition de pécheur, nous rappeler que nous aurons à rendre compte de tous les actes mauvais que nous avons commis ici-bas, est bien propre à nous plonger dans l'humilité et à nous disposer à être miséricordieux envers notre prochain. L'homme humble ne se venge pas. Et les injures qui lui sont faites sont autant de moyens pour lui de réparer les fautes qu'il a lui-même commises. Une autre considération qui nous aidera à pardonner, c'est que l'homme ennemi qui nous fait du mal se fait davantage de mal à lui-même qu'à nous. David, dans le psaume 117, dit de ses ennemis qu'ils l'ont entouré comme des abeilles. « Chikum dederunt me sicut apes ». Si cette expression marque le nombre innombrable des ennemis de David, il indique aussi ce qui arrive de part et d'autre. Une abeille, quand elle pique, occasionne une petite douleur, mais en blessant, elle laisse son dard, et avec son dard, elle laisse sa vie. Une abeille qui pique meurt. Voilà ce que font ceux qui causent un grand mal à leur prochain. Le grand mal matériel, c'est la piqûre d'abeille, mais eux, ils sont morts. Ils ont tué leur âme. Les saints nous donnent tous l'exemple de la patience devant les injures. Saint Grégoire le Grand raconte au sujet d'un pieux abbé nommé Étienne qui venait de recueillir sa moisson qu'il avait ensemencée de sa propre main. Et c'était là, pour lui et ses disciples, toute la subsistance de l'année. Tout à coup, un méchant homme arrive et met le feu à toute la récolte. Il ne reste plus rien. Un des disciples court vers l'abbé et lui dit « Quel malheur, Père Étienne, vous êtes arrivé, nous avons tout perdu. » Le saint tranquille répond Quel malheur plutôt est arrivé à celui qui a commis cette faute? Car pour moi, qu'est-ce que cela? Que faire alors? Saint Augustin va nous donner quelques conseils. Voici ce qu'il dit. Un chrétien en butte aux insultes et aux humiliations des méchants ne doit pas se laisser aller à la haine, ni chercher à vaincre la violence du vent. Ce qu'il a à faire, c'est de recourir à la prière, sans quoi il perdra la charité. Et c'est ça qui est important, sans quoi il perdra la charité. Il ne doit rien craindre de la part de son ennemi. Que peut-il lui faire? Dire beaucoup de mal? Vomir un grand nombre d'insultes? L'accabler d'injures? Qu'importe. Notre Seigneur a dit « Réjouissez-vous et tressaillez, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. » Et en effet, même si notre ennemi redouble ses attaques, c'est notre récompense qui, elle aussi, redouble. Que notre ennemi sévisse encore davantage, que son pouvoir soit plus grand contre nous, aucune paix ne pourrait surpasser la nôtre, puisqu'il nous a été dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. » L'unique chose que nous ayons à redouter, c'est que ces attaques troublent l'amour que nous devons à notre ennemi. En effet, cet homme, cet ennemi, ne fait que convoiter ce qu'il aperçoit en nous. Mais il y a un autre ennemi, un ennemi caché, le prince des ténèbres. Et lui, il convoite notre âme. Il veut la faire tomber en enfer avec lui. Si nous mettons ces deux ennemis devant nos yeux, cet ennemi de chair et cet ennemi immatériel, le démon, nous savons contre qui il faut combattre. Le démon cherche à faire des êtres comme lui, remplis de haine, alors que notre Seigneur, au contraire, transforme tout en amour, en charité. Que ces quelques considérations nous aident donc à purger notre cœur de tout sentiment de haine et de vengeance. Et pour nous y aider, nous terminerons par un dernier exemple. Un prêtre avait beaucoup à souffrir de l'un de ses paroissiens qui ne ménageait aucune occasion pour le cribler de critiques, pour le reprendre sur tout ce qu'il faisait, juger son comportement. Il faisait part de ses avis à de nombreux fidèles. Eh bien, que faisait ce prêtre à la sortie de chaque messe du dimanche? La première personne à qui il allait dire bonjour était ce paroissien. Que nous ayons donc tous à cœur d'en faire autant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.